Merci au Centre Alain Savary d'abord d'organiser ce moment et de faire en sorte qu'il puisse y avoir des échanges et une réflexion partagée sur les questions qui nous préoccupent, donc celle de l'éducation prioritaire. Merci beaucoup à Patrick Picard et à son équipe de tout ce qui a pu être fait avant ce moment de travail, puisque Patrick Picard a beaucoup participé aussi à toute l'élaboration de ce que nous avons été amenés à construire pour que nous puissions avoir aujourd'hui les orientations que nous avons pour la refondation. Je prendrai un petit temps pour reprendre un petit peu l'historique de ce que nous avons fait et pour resituer un peu la manière dont la refondation se construit aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs faut-il commencer par dire pourquoi on a voulu au fond parler de refondation de l'éducation prioritaire et pas de relance de l'éducation prioritaire. Quels sont les mots qu'on utilise et pourquoi on les utilise ? Avant de vous en parler, je vous dis un mot de qui je suis et de ce que j'ai fait jusque-là pour que vous situiez un peu à qui vous avez affaire. Donc, avant d'être au ministère, chef du bureau de l'éducation prioritaire et chargé de la mission, d'abord la mission MAP, d'évaluation diagnostic d'éducation prioritaire, puis maintenant la mission de préfiguration. Je vais expliquer MAP. Avant ça, j'étais, comme certains d'entre vous, inspecteur d'académie adjoint en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, et avant ça, inspecteur d'éducation nationale dans le premier degré, et avant ça, professeur, comme beaucoup. Donc, au cours de ce parcours, c'est quand je suis devenu inspecteur d'éducation nationale que j'ai rencontré l'éducation prioritaire et que j'ai commencé à y travailler. Et donc, quand le ministre a cherché des personnes qui étaient susceptibles de s'intéresser au sujet pour la perspective de la refondation, j'ai été très honoré qu'on pense à moi comme quelqu'un qui pouvait éventuellement apporter quelque chose sur ce sujet, compte tenu d'une histoire un peu ancienne. La logique de mise en place de la MAP qu'a souhaité le ministre, modernisation de l'action publique, c'est une logique de travail qui a eu pour vocation de rassembler toute l'information disponible sur la question de l'éducation prioritaire et de travailler étroitement avec les acteurs pour pouvoir élaborer des propositions. C'est-à-dire que l'idée de la MAP, c'était l'idée de dire, et de ce point de vue-là, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que je crois que c'est la première fois de ma carrière que je ne suis pas tant que ça dans l'urgence. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir la possibilité, que le ministère me donne la possibilité de prendre un an de travail. Alors, ça a été discuté, certains auraient souhaité qu'on aille plus vite, mais en même temps, ça a permis que nous prenions le temps de rassembler des informations, de contacter beaucoup d'acteurs de terrain, d'aller dans un certain nombre de réseaux. Et les consultants qui ont travaillé avec moi se sont rendus dans pas mal de réseaux. Il y a eu au moins 6 ou 7 réseaux en France qui ont été associés à la démarche. Le fait que nous ayons pu avoir les demi-journées banalisées, le fait que nous ayons pu avoir les assises, le fait qu'il y ait eu ces échanges assez collectifs, que tout ça soit inscrit dans un peu de durée, même si au moment des demi-journées, on nous a dit « vous allez trop vite ». Puisque bien sûr, quand on inscrit une temporalité, elle est toujours discutable. On peut aller parfois trop vite, parfois trop lentement, ça dépend comment on regarde la chose. Mais l'idée de la MAP, c'était de se donner le temps d'aller rechercher ce qui pouvait faire véritablement refondation, revenir à l'origine aussi de l'histoire de l'éducation prioritaire. Et de ce point de vue-là, si vous lisez ou si vous regardez le livre d'Antoine Pro sur le changement dans l'éducation nationale, vous verrez qu'il explique l'origine de l'éducation prioritaire, et vous avez par ailleurs sur le site de l'IFE, pour retrouver cette origine aussi, par exemple, un excellent témoignage d'Alain Bourgarel, qui a été à l'origine de ce dispositif d'éducation prioritaire, en réalité dans les années 70, avant le changement de 81 qui a introduit l'existence de l'éducation prioritaire. Le problème que nous avons rencontré en travaillant sur les fondamentaux de cette politique, c'est qu'elle a été plusieurs fois relancée. Alors elle a été relancée en 90, elle a été relancée en 98, puis elle a évolué au cours de reprises partielles en 2006, avec les rares, en 2011, avec Éclair. Les relances que nous avons eues n'ont pas permis les effets escomptés, puisque loin de se réduire, les écarts se sont creusés, et que dernièrement, l'écart que l'on observe en fin de CM2 entre les éclairs et le reste, hors éducation prioritaire, c'est un écart de 18,5% en français et de 26% en mathématiques. Alors cette fois, justement, il ne s'agissait pas de relancer une nouvelle fois, mais bien de refonder, c'est-à-dire de revenir à des fondamentaux qui avaient dernièrement été un peu perdus de vue, en partie notamment avec le programme CLAIR et avec Éclair, mais aussi de s'appuyer sur l'ensemble du corpus de connaissances acquises au cours de ces 30 ans pour rechercher quelles sont les dimensions sur lesquelles il faut agir pour espérer avoir un effet. L'effet que rappelait Patrick Picard dans son introduction, c'est-à-dire l'effet sur la réussite scolaire de nos élèves, puisque c'est bien de ça qu'il est question. Donc ceci explique, si vous voulez, ce temps qu'a souhaité le ministre pour que nous puissions travailler dans le cadre de la MAP. Donc le rapport de la MAP que vous pouvez retrouver sur le site Éducation Prioritaire, il y a une autre adresse qu'on vous donnera aussi qui est le site national Éducation Prioritaire. Ce site portera tout ce que le ministère, avec vous, conduira, puisque l'idée n'est pas, bien sûr, à partir de ce rapport, de conduire l'activité du ministère dans une logique de pure prescription, mais bien d'être dans une logique de partage continu avec l'ensemble des acteurs. Qu'est-ce que le rapport de la MAP a utilisé comme source ? La première chose, ça a été les rapports de l'OCDE et de la Cour des comptes. Vous connaissez, vous avez entendu parler plus longuement dernièrement du choc PISA, mais les données de l'OCDE antérieures aux dernières données de PISA étaient déjà assez défavorables à la France, notamment en ce qui concerne les inégalités. Vous avez aussi sans doute entendu parler d'un rapport de la Cour des comptes qui analysait la dépense pour l'éducation prioritaire et qui avait mis en évidence, tout comme l'OCDE, que la France n'avait pas un écart de dépenses suffisamment significatif entre les quartiers les plus en difficulté et les quartiers les plus favorisés, ou les quartiers ordinaires, de mixité sociale ordinaire. Donc ces deux institutions poussaient plutôt à ce que nous regardions comment mieux dépenser et mieux dépenser plus pour l'éducation prioritaire. Les inspections générales ont produit au cours de l'histoire d'éducation prioritaire des rapports qui ont été particulièrement importants. Il y en a deux grands qui sont célèbres au point qu'on les identifie par le nom de leurs auteurs. Moisan-Simon en 97, Armand-Gilles en 2006. Ces deux rapports qui ont été des rapports qui ont marqué l'histoire de l'éducation prioritaire et qui ont rappelé finalement des fondamentaux de l'éducation prioritaire qui étaient bien à l'origine de l'éducation prioritaire. Ces rapports n'incitaient pas à aller dans des directions nouvelles, non maîtrisées par rapport aux enjeux de l'éducation prioritaire, ils incitaient bien à aller vers l'essentiel et vers un engagement fort sur la question de la réussite scolaire. La recherche, alors, souvent engagée localement dans des recherches-actions, beaucoup de travaux concrets se sont conduits dans les territoires d'éducation prioritaire. La recherche a beaucoup contribué à produire des savoirs sur la réussite scolaire, notamment en milieu défavorisé. Et puis surtout, les acteurs de l'éducation prioritaire, c'est-à-dire vous, nous, les collègues qui travaillent dans l'éducation prioritaire, les enseignants, ont au fil de l'histoire de l'éducation prioritaire, même s'il y a du turnover en éducation prioritaire, il y a aussi beaucoup de fidèles de l'éducation prioritaire et de collègues engagés dans l'éducation prioritaire, dont la parole doit être parfaitement entendue, parce que c'est à la fois une parole d'expérience, mais qui est souvent devenue une parole d'expertise. Et je crois que c'était très important que le rapport de la MAP s'appuie de ce point de vue-là sur l'ensemble de ce qui a pu se conduire dans l'éducation prioritaire, dans son histoire, tout au cours du temps. Alors, je pense que là où vous êtes situé, vous avez suivi cette démarche, vous avez évidemment contribué aux demi-journées banalisées, vous avez contribué aux assises dans vos académies respectives, donc je ne vais pas reprendre tout le déroulé de ce dispositif. Il s'agissait bien, sur une base de réflexion issue des sources que je vous ai indiquées, nous n'avons rien inventé. Hein. Je veux dire, le rapport de la MAP, c'était les données de ce rapport, c'était absolument. On ne nous demandait surtout pas d'innover. On ne nous demandait pas d'apporter une pensée nouvelle. On nous demandait de rassembler la pensée sur le sujet et de nous appuyer sur des choses solides. Je pense que c'est ce que nous avons à peu près réussi à faire. Et vous disposez donc sur le site Éducation prioritaire de toutes les étapes. Le rapport du 17 juillet, la synthèse des réseaux, la synthèse des assises, les orientations ministérielles avec le dossier du ministre du 16 janvier. À partir de là, qu'est-ce que c'est que refonder ? Refonder, me semble-t-il, c'est d'abord redonner un objectif clair à cette politique. Et Patrick Picard a rappelé la façon dont le directeur général d'enseignement scolaire peut l'énoncer. On peut l'énoncer autrement. En resituant cette énonciation dans ce qu'est l'histoire de l'éducation prioritaire. De ce point de vue-là, je vous renvoie volontiers aux travaux de Jean-Yves Rochex et Daniel Frangy sur les trois âges de l'éducation prioritaire, depuis la lutte contre les inégalités à l'adaptation à des besoins spécifiques. Il y a eu des glissements de sens du travail dans l'éducation prioritaire. Des glissements de sens qui ont amené à une sorte un peu d'éclatement vers une diversité d'objectifs, qui est d'ailleurs lisible dans l'énoncé même du programme CLAIR. Ambition, innovation, réussite, ça fait trois objectifs pour une même politique. Progressivement, des entrées psychologiques ont vu le jour. Progressivement, la sociologie a été mise de côté et la dimension collective a été mise de côté au profit d'une réflexion sur l'individu et ses besoins. Progressivement, on a moins parlé des notions d'écarts sociaux et on a perdu de vue un peu la réussite de tous. Donc notre problème en termes de refondation, c'était bien, et chacun l'a vu avec la loi, de remettre au cœur du système la question de la réussite de tous. Donc cette question de la réussite de tous, ça voulait dire pour l'éducation prioritaire que ça devait se traduire par un objectif explicite qui est clairement énoncé dans la loi, réduire les écarts de réussite scolaire entre les territoires où celles-ci risquent d'être plus faibles du fait des concentrations de difficultés sociales et le reste du territoire. La loi l'explicite en disant ramener à moins de 10% les écarts de réussite scolaire entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres. C'est la première fois que le mot éducation prioritaire est prononcé dans la loi. Jusqu'à présent, éducation prioritaire, c'était toujours des circulaires, hein, jamais la loi. Là, c'est la loi plus un certain nombre de perspectives très clairement énoncées. Je vous l'ai dit, actuellement en éclair, les écarts 18,5, 26 au CM2, ils sont encore plus importants en fin de troisième. L'idée de les ramener à moins de 10%, c'est sur le CM2. Et cela figure dans les objectifs désormais aussi de la loi d'orientation pour les lois de finances, les objectifs de la LOLF, les objectifs de ce qu'on appelle le programme de performance. Donc une cohérence entre ce que dit la loi, ce que dit la LOLF, ce que nous avons à faire concrètement, compte tenu du fait que les déterminants sociaux sont particulièrement forts en France. Alors à partir de là, il s'agit d'élaborer un certain nombre d'axes de travail qui répondent à cet objectif central et unique de réduction des écarts de réussite scolaire. Ces trois axes se déclinent en fonction de ce qui construit des résultats scolaires. Si nous faisons l'analyse de ce qui amène des résultats scolaires, il y a d'abord des problématiques de contexte. c'est-à-dire un contexte des écoles et collèges de l'éducation prioritaire, ce contexte sur le plan social, sur le plan éducatif, qui font que l'école ne peut pas tout toute seule et qu'une part de la responsabilité de la réussite scolaire ne concerne pas que l'école. Et cette part de la réussite scolaire qui ne concerne pas que l'école, c'est notamment la question urbaine, c'est notamment la question de la mixité sociale. Autrement dit, il y a bien un travail à faire sur les contextes, et de ce point de vue aussi, la loi dit clairement mixité sociale dans les établissements scolaires. Cette mixité sociale dans les établissements scolaires ne dépend évidemment pas d'abord du scolaire, elle dépend évidemment d'abord de la question urbaine, de la question des sectorisations, mais d'abord de la question des peuplements. Le deuxième aspect des axes de travail ou de ce qui va fonder les axes de travail, c'est qu'évidemment, la réussite scolaire dépend des personnels qui y exercent. Rien n'est possible sans l'engagement des personnels qui exercent dans l'éducation prioritaire. Et donc, il faut bien être dans une logique de soutien fort à ces personnels. Mais ça veut dire aussi d'attention soutenue à la question de leur formation initiale, de leur nomination. Avec les ESP, progressivement se remet en place une formation initiale que nous voulons de qualité globale, qui ne soit pas seulement une formation, comme on a pu l'avoir souvent, universitaire et didactique, mais qui soit aussi progressivement une formation qui assume pleinement les dimensions pédagogiques du métier. Et donc, il y a un enjeu autour de cette question des personnels et de la formation des personnels. Le troisième contexte, c'est le contexte des pratiques professionnelles dans la classe elle-même, dont on sait que certaines, et la recherche l'a assez clairement explicité, sont plus efficaces que d'autres, dont on sait notamment que certaines sont plus efficaces que d'autres dans les territoires défavorisés. Et donc on a un enjeu de travail assez important sur cette question des pratiques professionnelles, qui ne se résume pas à la question de la formation initiale, mais qui va bien au-delà dans ce qui a été évoqué tout à l'heure en termes d'intermétier, qui va bien au-delà dans ce qu'on doit évoquer en termes de travail collectif au sein des établissements. Donc la déclinaison politique de cela, vous l'avez vu le 16 janvier, avec l'intervention des ministres, avec la présentation du plan. C'est d'abord un état d'esprit qui se caractérise par la confiance dans les analyses conduites par les personnels lors des demi-journées et des assises, par la confiance dans leur engagement au quotidien pour la réussite de tous leurs élèves, par la confiance dans leur capacité à développer une culture du collectif, de la coopération, par la confiance dans un haut niveau d'exigence pédagogique et d'humanisme. Les mots sont du ministre, dans l'énoncé qu'il a proposé le 16 janvier sur cette question. Le cœur de l'affaire est pédagogique. Il est dans la relation entre des élèves et des personnels, dans des contextes de réseaux insérés dans des tissus sociaux avec lesquels ils interagissent pour la construction des savoirs. Or, là aussi, comme l'indique Antoine Praud, la France, contrairement à de nombreux pays où le sujet est au cœur du métier d'enseignant, la France connaît une forte coalition antipédagogique qui a toujours mis en échec les tentatives de réforme pédagogique en faisant mine le plus souvent de confondre pédagogique et relationnel sans contenu. Alors que nous savons bien que ce que nous appelons pédagogique trouve à s'articuler fortement avec les contenus d'enseignement. D'où l'enjeu que nous allons avoir pour l'éducation prioritaire de ce qui est en cours de travail avec la révision des programmes et du socle. Il y a bien là un enjeu fort pour que le recentrage de notre action sur la question pédagogique soit bien accompagné dans une dimension plus globale et nationale de l'élaboration des programmes que nous avons à mettre en œuvre. Ce dont nous parlons, c'est bien d'enseigner. Certains ont opposé, il fut un temps, enseignement et pédagogie. Ce dont nous parlons, nous, et ce dont nous parlerons tout au cours de notre travail sur l'éducation prioritaire, c'est bien d'enseignement. La pédagogie, c'est la façon d'enseigner. La pédagogie, c'est quelles sont les bonnes façons d'enseigner. Travailler la pédagogie, c'est travailler les bonnes façons d'enseigner pour que nos élèves fassent les acquisitions que nous en attendons. Et donc la refondation, c'est d'abord cela. La refondation, vous le voyez, va au-delà, bien évidemment, et c'était le sens même de la loi, va bien au-delà de l'éducation prioritaire. Elle commence d'abord par être une refondation de tout le système, mais la refondation de l'éducation prioritaire s'inscrit dans une refondation de tout le système dont la vocation première est d'accompagner les apprentissages des élèves qui rencontrent les plus grandes difficultés. Je crois que c'est assez clair dans l'énoncé de la loi, c'est assez clair dans ce qui est demandé au Conseil supérieur des programmes par rapport à ce qui lui est demandé d'évolution des programmes. Rappelons-nous à cet égard que nous ne faisons que mettre en œuvre des recommandations d'un rapport des inspections générales de 2005 qui posait une question, qui disait « Les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur de l'école ». C'était le titre du rapport, avec un point d'interrogation à la fin. Mais il va de soi que la réponse est clairement donnée. C'est bien évidemment le cœur de notre métier, les acquis des élèves. Piloter, c'est bien garder ça en tête. Et garder ça constamment en tête. Et c'est toute la difficulté de notre métier, de nos métiers, que piloter, ça sera garder ça en tête, alors que nous pouvons constamment rencontrer des vents contraires. Est-ce que ce que nous avons à faire s'inscrit bien dans la perspective des acquisitions de nos élèves ? Est-ce que tout ce qui nous est proposé par des forces parfois extérieures à l'école, l'école c'est pratique parce que l'école tout le monde y est, le public de l'école c'est un public captif comme on dit quelquefois. Et donc très souvent l'école est l'objet de propositions diverses, variées, qui veulent l'entraîner sur d'autres objectifs que les siens. Vous avez connu ça, vous connaissez ça. On a parfois des partenaires qui ont d'autres objectifs que les nôtres. Et quand, par exemple, moi j'ai vu arriver à un moment donné de ma carrière le clown Ronald McDonald à la maternelle, il a fallu dire non. Il a fallu dire non. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour atteindre les objectifs d'autres, dès lors que ces objectifs ne sont pas en parfaite cohésion et cohérence avec les nôtres. Donc là-dessus, il va falloir qu'on soit vigilant, d'abord, et ensuite ferme. Je crois que c'est un des enjeux de tout notre travail, et c'est un des problèmes que rencontrent toujours les pilotes, mais à ce point de vue-là, moi je ne distingue pas pilote et pilote. Je veux dire, je pense que l'enseignant pilote sa classe. Enfin, qu'est-ce que piloter ? Bien sûr, piloter, c'est à tous les niveaux du système que nous pilotons constamment et que nous avons à garder en tête les objectifs essentiels qui sont les nôtres et à nous garder de ce qui pourrait nous entraîner vers d'autres perspectives. Alors, je vous rappelle les trois axes d'action de la refondation de l'éducation prioritaire, les 14 mesures, et les 6 priorités du référentiel. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que nous avons tenté, même si dire 3 axes, 14 mesures, 6 priorités, ça peut paraître un peu un éclatement, nous avons tenté de faire en sorte que ce soit pour vous des outils qui correspondent à nos attentes partagées, puisque ces éléments ont été élaborés en fonction de ce qui a été discuté dans les assises et en fonction de ce que nous avons pu rassembler des travaux de la recherche. C'est de montrer que tout ce que nous avons proposé finalement présente une certaine cohérence et cohésion et qu'il y a un sens à tout cela. L'important, c'est que c'est un tout. Et que quand on dit 3 axes, 14 mesures et 6 priorités, ce n'est pas l'un sans l'autre ou les uns sans les autres, c'est le tout ensemble et chacun s'alimentant de l'autre. Certains m'ont dit les 6 priorités, 78 items du référentiel, c'est un peu éclaté. Mais le problème, c'est qu'il faut bien à un moment donné analyser, c'est l'esprit cartésien français, mais il faut en même temps avoir toujours en tête que ce qu'il s'agit de faire, c'est de rassembler, c'est de mettre en lien, c'est de mettre en commun, c'est de partager autour de ça. Alors les trois axes. L'axe 1, il a été énoncé de la manière suivante, des élèves accompagnés dans leurs apprentissages et dans la construction de leur parcours scolaire. C'est la formulation qui a été choisie. Cet axe 1, il rappelle l'indispensable concentration sur les apprentissages scolaires et sur l'idée que nos élèves vont avoir un parcours à réaliser et que les apprentissages sont là pour étayer le parcours. Il est repris, cet axe 1, et précisé dans le référentiel. Quand vous avez regardé le référentiel, vous avez vu la priorité 1, garantir l'acquisition du lire, écrire, parler, enseigner plus explicitement les compétences que l'école requiert. La priorité 2, conforter une école bienveillante et exigeante. C'est bien l'axe 1 qui est ici traduit dans ces deux priorités. Cet axe 1, il est également porté dans 6 mesures. Les 6 mesures en question, c'est l'accueil des moins de 3 ans à l'école maternelle pour refonder les apprentissages premiers. C'est le plus de maîtres que de classes pour accompagner les évolutions pédagogiques au sein de l'école. C'est l'accompagnement continu des élèves de 6e, qui est une mesure nouvelle pour la rentrée 2014 dans les REP+, qui a vocation notamment à permettre que les enfants de 6e n'aient pas, ou le moins possible, d'activités hors la classe qui ne soient encadrées. C'est la mise en place du numérique avec Décole. C'est l'ambition et la curiosité pour le parcours. Et c'est le dispositif des internats de proximité. Si vous voulez, on reviendra dans l'échange sur ces différents aspects, si vous avez des points que vous souhaitez qu'on approfondisse. Là, je les rappelle rapidement. L'axe 2, c'est des équipes éducatives formées, stables et soutenues. C'est ce que je rappelais tout à l'heure. Rien ne se fait sans les personnels. Nous devons donc les soutenir. Vous retrouvez dans le référentiel les parties 4 et 5, le travail en équipe, accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels, avec un détail de ces orientations. Et puis les 3 mesures qui contribuent à cet axe, le temps, la formation, les indemnités. L'axe 3, c'est le cadre propice aux apprentissages. Il est repris et précisé dans la priorité 3 du référentiel, qui s'énonce une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire. Et 5 mesures énoncées y contribuent, des projets de réseau pérennes, un fonds académique pour financer des actions à partir de la rentrée 2015, un accueil des parents chaque matin, 500 assistants de prévention et de sécurité, un infirmier scolaire, un assistant social pour les REP+. Vous avez sans doute noté, après ce rappel, que précisément, je n'ai pas évoqué la 6e priorité du référentiel, parce que la 6e priorité du référentiel, renforcer le pilotage et l'animation des réseaux, couvre évidemment l'ensemble du reste. C'est-à-dire, il s'agit bien par le pilotage, l'animation des réseaux, de faire en sorte que l'ensemble de la refondation de l'éducation prioritaire se mette en œuvre dans les différents réseaux d'éducation prioritaire, recouvre l'ensemble du champ, et donc consiste à préciser par quels moyens on réalise tout le reste. Et c'est bien le sens de la présente rencontre, et je vous remercie de ce que je pourrai entendre et de ce que je n'entendrai pas, mais dont j'aurai le compte-rendu, qui me permettra aussi d'enrichir cette dimension du référentiel, puisque ce référentiel n'en est qu'à ses débuts. Nous avons pour ambition de l'enrichir dans le travail partagé avec toutes les académies. Il y aura des échanges entre nous pour progressivement, sous chaque item du référentiel, proposer des fiches repères qui nous permettront d'en préciser les orientations. Alors, il me revient de préciser un peu ce qui est prescrit à cet égard. dont je rappelle qu'il est issu de cette double démarche de compilation d'une part et d'échange avec les acteurs d'autre part. Et vous remarquerez tout d'abord que dans cette refondation, le choix des ministres a été d'appeler les choses par leur nom. L'éducation prioritaire, c'est l'éducation prioritaire. Le réseau d'éducation prioritaire, ça s'appellera le réseau d'éducation prioritaire. Il y en a deux sortes. Réseau d'éducation prioritaire, on va dire, ordinaire, qui correspond grosso modo à ce qu'on a pu appeler les RRS, et puis le réseau d'éducation prioritaire plus, qui correspond pour une part à ce qu'on a pu appeler les RAR et les éclairs, mais probablement pas seulement. Et pas toujours. Le coordonnateur d'éducation prioritaire s'appellera le coordonnateur d'éducation prioritaire. Le projet de réseau s'appellera le projet de réseau. Le comité de pilotage du réseau s'appellera le comité de pilotage du réseau. Le conseil école-collège est une nouveauté qui vient compléter. On verra, on échangera peut-être sur l'articulation entre ces dispositifs. Et donc, il s'agit de bien distinguer, par ailleurs, cette politique d'éducation prioritaire d'autres politiques. Moi, j'ai pris la suite dans un bureau du ministère, comme chef de bureau au ministère, d'un bureau qui s'appelle le bureau de l'éducation prioritaire et des dispositifs d'accompagnement. Il ne s'est pas toujours appelé comme ça. Il s'est aussi appelé le bureau de l'éducation prioritaire, à une époque. À une autre époque, il s'est appelé le bureau de l'éducation prioritaire et de la politique de la ville. Et puis, à un moment donné, il s'est appelé et des dispositifs d'accompagnement. Alors, en sachant que dans les dispositifs d'accompagnement, vous aviez l'accompagnement éducatif, l'école ouverte, l'internat d'excellence. Vous aviez également les dispositifs relais. Voilà. Toutes choses qui n'étaient pas exactement l'éducation prioritaire, même si à certains égards, ça pouvait y contribuer. Désormais, il y a bien une politique de l'éducation prioritaire, et par ailleurs, il y a bien une politique de l'internat de la réussite pour tous. Il se trouve que mon bureau est toujours chargé des deux, mais nous distinguons bien les choses. La politique de l'éducation prioritaire, c'est la politique de l'éducation prioritaire, celle d'internat pour la réussite de tous, c'en est une autre. Et donc, je pense que c'est important que nous soyons bien au clair là-dessus. Évidemment, ces politiques ont vocation à se rencontrer à certains moments. Elles ont vocation à se rencontrer, par exemple, quand on donne priorité pour l'internat à des élèves d'éducation prioritaire qui en ont besoin. Et non plus, comme on a pu l'entendre, à des élèves d'éducation prioritaire ou des élèves méritants. Là, il s'agit d'élèves qui en ont besoin parce que socialement, ils en ont besoin. C'est un peu différent comme entrée dans le sujet. Ces politiques se rencontrent quand on prévoit que les futures 6000 places supplémentaires d'internat de la réussite pour tous devraient aussi aller, pour une part importante et en priorité, vers des collèges de proximité pour les quartiers de la politique de la ville ou les quartiers de l'éducation prioritaire, pour des jeunes urbains qui n'ont pas toujours pu en bénéficier jusqu'ici, puisqu'il y a une évolution de la demande sociale par rapport à la question de l'internat. Il y avait eu une époque où la forte demande sociale était dans les campagnes, parce que le collège était loin. Aujourd'hui, la forte demande sociale, elle est davantage dans les villes. Et donc, il faut adapter la politique de l'internat à la demande sociale et répondre à des besoins nouveaux dans une logique de réussite de tous. Pour le pilotage et l'animation des réseaux, donc trois perspectives vous sont proposées. Un référentiel qui donne des repères auxquels se référer. Nous sommes partis de l'idée que tout ce que nous avons accumulé au cours du temps donne des repères suffisants et qu'il ne s'agit pas de réinventer en permanence. Il s'agit bien de s'appuyer sur ce que nous savons. On ne va pas demander à nos équipes de se lancer dans des projets totalement novateur, puisque l'idée de totalement novateur n'a pas de sens quand on s'appuie, quand on s'adosse à des données de la recherche, quand on s'adosse à des pratiques éprouvées par l'expérience des acteurs. Et donc l'idée, c'est bien d'élaborer les projets de réseau en s'appuyant sur les repères que donne le référentiel qui est une forme de prescrit, mais qui est une forme de prescrit qui trouve sa source dans l'expertise, dans l'expérience, dans le travail de la recherche. Donc je crois que ça, c'est important de le présenter comme ça. Deuxième chose, vous avez ces actions qui sont inscrites dans les 14 mesures. Donc vous avez le référentiel qui donne les repères, les actions inscrites dans les 14 mesures à construire et à réaliser dans les REP plus en priorité, et exclusivement pour 4 d'entre elles, vous les avez identifiées. Et puis, vous avez des pistes pour l'organisation du pilotage et de l'animation de la 6e priorité du référentiel qui vous propose 3 volets, le pilotage et le fonctionnement du réseau, l'évaluation et la valorisation du travail et la communication. On y donne quelques indications simples. Chacun de ces items donnera lieu à une fiche repère qui sera élaborée au sein de la DGESCO avec l'inspection générale en appui sur des échanges avec les académies. Et de ce point de vue-là, je suis très demandeur de remontées de projets, de travaux conduits, de formations mises sur pied, des descriptifs de ce que vous faites. Nous serons demandeurs de ces remontées au niveau de la centrale pour alimenter les fiches repères. On ne prendra pas tout ce qui nous remontera. On prendra tout ce qui nous remontera, qui sera bien dans le champ des orientations que nous avons données. Là aussi, ce que j'évoquais tout à l'heure, vigilance quant à la pertinence de ce que nous proposons. On sera assez clair là-dessus. On n'est pas preneur de tout. On est preneur de ce qui s'inscrit dans les directions considérées comme utiles pour la politique de l'éducation prioritaire. Bien sûr, on a besoin de bénéficier, pour que ce soit pertinent, pour que ce soit véritablement efficace, on a besoin de bénéficier de votre expertise et du fait que c'est éprouvé dans le quotidien des réseaux. Sinon, c'est de la parole en l'air si on n'est pas sur des choses qui sont vraiment éprouvées. On a besoin que ce que vous nous rendez, nous restituez, ce soit le fruit d'une expérience qui soit bien assimilée et bien restituable pour son efficacité. Donc, par ailleurs, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'aimerais maintenant terminer, avant d'échanger peut-être. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans ce que nous vous proposons. Mais il y a des choses qui me semblent importantes néanmoins par rapport à l'éducation prioritaire et que j'aimerais vous dire. La première chose, c'est qu'il faut que nous nous... Enfin, les trois choses, c'est qu'il faut que nous nous gardions d'un certain nombre de dérives qu'on a pu connaître à certains moments. La première, c'est gardons-nous des certitudes et des énoncés simplistes. Ce que nous avons à faire, et Patrick Picard le rappelait au démarrage, ce que nous avons à faire et les positions dans lesquelles nous sommes, là où nous sommes, ça n'est jamais simple. Ce que nous avons à faire, c'est forcément inscrit dans une complexité, la complexité de la mission du pilote, la complexité de la mission d'enseignant, la complexité des métiers de relation, parce que nous sommes dans des métiers de relation, et que les métiers de relation, ça ne va pas de soi, il faut en accepter la complexité. Se rappeler que chacun d'entre nous est par définition au croisement d'intérêts contradictoires, et que c'est parce que nous sommes au croisement d'intérêts contradictoires qu'il est important de nous référer, chaque fois que nous le pouvons, à notre raison, et de prendre les choses par de petits bouts de notre raison, comme disait un détective du 19e siècle. La deuxième chose, c'est que chacun à notre place, il faut tenter de nous défier aussi de ce qui est devenu assez insupportable à tous les acteurs, et tous les acteurs ont raison de trouver ça insupportable. Faites comme je dis, pas comme je fais. Non, faisons comme nous devons et faisons tous ensemble sur des modes de faire qui soient des modes de faire partagés et acceptables pour les autres. Acceptons l'idée simplement que l'exemple est utile dans ce que nous faisons. Utile et important. Une bonne façon de développer le travail en équipe des maîtres, c'est de montrer le travail en équipe des pilotes. c'est de montrer le travail en équipe quand on construit une formation. Alors on essaye de le faire là, en ce moment pour la formation de formateurs qu'on est en train de mettre sur pied avec le centre Alain Savary, avec l'inspection générale, avec la recherche. On est en train de travailler un peu ensemble. Hein. On se voit régulièrement pour le faire.
Ça va pas mal, mais...
ça avance. De ce point de vue, je vous précise qu'au niveau du ministère, nous avons 3 instances de travail sur cette politique. Un comité de pilotage qui comprend le cabinet du ministre, l'inspection générale, la DGESCO, la DGRH et l'ADEP. Un comité de pilotage. Un comité de suivi qui, lui, est ouvert, comprend bien sûr les mêmes, mais qui est ouvert à des recteurs, à des DAZEN, à des partenaires de la ville, de la famille et du budget notamment. Et puis une équipe projet qui est interne à la DGESCO pour la mise en œuvre de groupes de travail sur les actions que nous avons à conduire. C'est-à-dire nous essayons de faire du travail collectif, de coopérer au sein de la DGESCO entre des bureaux qui ont plutôt l'habitude historique de fonctionner en tuyau d'orgue, si vous voulez. Le bureau des écoles, le bureau des collèges, le bureau de l'éducation prioritaire. On essaye avec les collègues qui sont à la tête de ces bureaux de faire en sorte que ça se parle un peu davantage et puis que ça soit un peu plus convivial au sein de la maison. Ne serait-ce que ça, déjà, c'est pas mal. C'est important aussi. Défions-nous aussi de trop rapidement juger ce que nous mettons sur pied. C'est la matière sur laquelle nous travaillons, l'éducation, c'est une matière de la longue durée. Et de ce point de vue-là, c'est passionnant de lire l'ouvrage d'Antoine Prost sur le changement dans l'éducation nationale entre 1936 et quasi aujourd'hui. C'est passionnant parce que ça montre bien le temps long de l'éducation. Et donc on sait qu'on a un travail considérable à faire. Nous allons articuler pour le réaliser à la fois la bienveillance et l'exigence dans une relation entre adultes responsables à tous les niveaux. Et évidemment, la question de la confiance est au cœur de cette affaire-là. C'est important que nous l'ayons entre nous et que nous évitions les formes de bienveillance qui ont pour nom condescendance, qui seraient extrêmement détestables. Parce qu'au fond, la condescendance, c'est exactement le contraire de la bienveillance. Voilà, je voulais terminer là-dessus.
Alors, merci pour ces mots.